Bonjour à tous. Dans les textes proposés à la lecture pour ce dimanche, nous avons également Matthieu 14, versets 22 à 33. C'est ce texte bien connu que nous lirons et commenterons pour le message de ce matin. Lisons Matthieu 14, les versets 22 à 33. Aussitôt après, il, c'est-à-dire Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Le lac, la barque, la montagne, c'est pas mal pour un dimanche du mois d'août, où beaucoup de personnes dans notre pays font une pause pour se changer les idées. Jésus également avait besoin de se changer les idées. Au verset 13, nous lisons, à cette nouvelle du même chapitre de Matthieu, nous lisons, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Même Jésus ressentait le besoin de se retirer, le besoin de faire le point, le besoin de se ressourcer. Mais de quelle nouvelle s'agissait-il? Au début du chapitre 14, nous lisons la décapitation de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui prêchait la repentance et qui a été témoin du baptême et qui a vu les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus. Hérode, le tyran totalitaire, agréé par l'occupant romain pour exercer sa tyrannie sur le peuple juif, vient de se payer la tête de Jean-Baptiste qu'il avait déjà fait prisonnier pour raisons politiques. Jean avait osé dénoncer les relations incestueuses au sein de l'entourage immédiat du roi de Judée. Lorsque les mauvaises actions, les mœurs dépravées des puissants tyranniques sont dénoncées, la réponse est toujours la même. Emprisonnement, intimidation, torture, voire même mise à mort. La liberté d'expression n'est pas bienvenue quand le pouvoir s'exerce pour défendre les privilèges de la classe dirigeante sans avoir de compte à rendre. Il y a quelque temps, François Longeron nous apportait un message au sujet de la détention de Jean-Baptiste avec la question « Pourquoi Jésus n'est-il pas intervenu pour libérer ce prophète injustement arrêté ?» Pas de réponse à cette question. Et voilà qu'il est trop tard. Lors d'une fête au palais, les comploteurs piègent le roi Hérode pour qu'il commandite la décapitation de Jean. Une horreur, un crime indicible, une lâcheté sordide pour une fête complètement décalante. Jean avait bonne réputation, il était populaire, il prêchait la repentance, première étape indispensable qui amène au salut. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer, à l'écart dans un lieu désert. Jésus ne fuit pas. Il cherche à renouveler ses forces et à ne pas se laisser troubler par la violence inhumaine du roi de Judée. Et, disons-nous, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Les foules aussi sont troublées par cette nouvelle. En Matthieu 14, verset 5, nous lisons que Hérode craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. La foule se rapproche de Jésus pour qu'il les guide dans leur désarroi. En accostant, après quelques coups de rame ou de navigation à la voile, un peu d'activité physique au grand air pour se changer les idées, la foule est là, 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, les pauvres, les laissés pour compte de la société des malades. Jésus est ému. Il entre en communion avec la colère et la tristesse de la foule du fait de l'assassinat de Jean. Son temps personnel de ressourcement est remis à plus tard. Il guérit les malades. Il annonce le royaume de Dieu. Il annonce le projet de Dieu pour l'humanité. Et déjà, la fin de la journée arrive. Le service d'ordre de l'événement suggère le renvoi de la foule, la dispersion des attroupements, avant que la nuit ne tombe. Jésus ne gère pas l'événement comme attendu par les disciples. Il fait asseoir la foule, 5 pains, 2 poissons. Jésus rend grâce et rompt les pains. Tout le monde est rassasié et il reste 12 paniers pleins. Dieu, dans sa bonté, donne en abondance, y compris de quoi rassasier les corps de cette foule qui s'interroge sur la suite des événements à venir. Guerre par-ci, coup d'état militaire par-là, liberté d'expression muselée, persécution pour motifs religieux, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud. Où va le monde, y compris au XXIe siècle? Qui, aujourd'hui, est encore attiré par la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ? Revenons à notre texte du jour. Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverse la foule. Ça suffit pour aujourd'hui. Chacun retourne vaquer à ses activités du quotidien. Guéri, encouragé, rassasié, la foule se disperse dans le calme. Jésus monte sur la montagne pour prier et probablement admirer le coucher de soleil sur le lac. Tant de ressourcement, tant de méditation, un temps pour se préparer à affronter les autorités, parce que Jésus sait déjà qu'il sera la prochaine victime, mais cela ne l'arrête pas. Il ira jusqu'au bout de sa vocation, de son ministère terrestre. Sur le lac, le vent s'est levé, c'est un vent contraire. Les disciples rament, au sens propre comme au sens figuré. Face à l'énergie de la nature, l'homme est peu de chose. Traverser le lac pour aller sur l'autre rive devient dangereux. Traverser la Méditerranée vers l'Europe, traverser la Manche vers la Grande-Bretagne peut rapidement tourner au cauchemar et finir par un naufrage et une noyade. Pour les disciples, c'est un événement surnaturel qui intervient au cœur de la tempête. Un homme vient vers eux en marchant sur l'eau. Quand on se documente pour savoir comment les uns et les autres commentent le texte, certains se posent la question « comment cela est-il possible ?» On trouve des suggestions comme « les disciples ont eu des hallucinations, la scène n'est pas réelle » ou « Jésus a marché sur des cailloux immergés juste sous la surface » et même on entend dire qu'il pourrait y avoir un refroidissement brutal en début de nuit et a fait geler l'eau du lac pour que l'homme puisse se déplacer sur la glace. Curieuse question, alors que les récits bibliques montrent en permanence que Dieu est maître des éléments naturels. Traverser de la mer Rouge pour échapper à l'armée du Pharaon, traverser du Jourdain à sec pour entrer dans le pays promis. Une première tempête apaisée en Matthieu 8. La mer, les grandes eaux, sont souvent des symboles de catastrophe et de mort dans les récits bibliques. De nombreux commentaires émettent des doutes sur la réalité d'un tel miracle. Jésus marche sur l'eau. Et alors ? L'important n'est pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce que ce texte nous dit, comment il nous rejoint dans notre quotidien. Nous pouvons entendre que lorsque nous affrontons les tempêtes de la vie, le ressuscité vient à nous pour nous rejoindre dans notre barque. C'est une réflexion d'Antoine Louis, je ne l'ai pas trouvé tout seul. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus. La météo n'est pas très bonne. Il fait nuit. Jésus qui marche sur l'eau, c'est comme Jésus ressuscité. Son aspect physique n'est pas le même. Jésus montre que malgré la mise à mort de Jean-Baptiste, il reste maître de la vie. Il domine, il est au-dessus de la mort. C'est la réponse qu'il a trouvée lorsqu'il s'est mis à l'écart pour prier sur la montagne quelques heures plus tôt. Pour les disciples, à l'angoisse d'un naufrage potentiel s'ajoute la vue d'un fantôme et les disciples apeurés, terrorisés, poussent des cris. Jésus parle. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Entendre et reconnaître cette voix au cœur de la tempête ne suffit pas pour Pierre. Et c'est la première fois que Pierre joue un rôle particulier parmi les douze. Il est le plus intrépide. La voix, il l'a reconnue. Il a déjà expérimenté la puissance de Jésus. Il cherche à tester les limites, marcher sur les eaux. Jésus l'invite, viens. Et Pierre sort de la barque avec courage pour marcher sur les eaux de la mort. Et au bout de quelques instants, Pierre l'intrépide témoigne de son manque de foi. Au cœur de la tempête, la peur reprend le dessus. Malgré sa relation privilégiée comme disciple de Jésus, il reste humain et les eaux du lac s'apprêtent à l'engloutir. À moitié immergé, un réflexe salutaire, un cri de détresse, il s'adresse à Jésus. « Sauve-moi !» Et Jésus tend la main, lui reproche son manque de foi et les deux remontent dans la barque. En l'espace de quelques instants, Pierre a toutes les émotions liées à son humanité. La peur est présente tout au long du récit. La peur et la foi sont incompatibles. Nos peurs contemporaines nous empêchent souvent de vivre notre foi. Nos gouvernants, y compris dans nos pays démocratiques, n'hésitent pas à faire monter les peurs de toutes sortes avec la complaisance des médias et des réseaux sociaux pour nous détourner de notre foi. Jésus est toujours là. Sauve-nous, et il nous tend sa main, il nous ramène et nous rejoint dans notre barque. Seigneur, sauve-moi. Pierre n'est plus dans la foi triomphante. Je marche sur l'eau, Jésus est mon maître, mais dans la foi humble de celui qui crie à Dieu son désespoir. Jésus entend, Jésus agit. Il est le même encore aujourd'hui. C'est au tour de Jésus d'interroger. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et comme Pierre, nous pourrions dire. J'ai eu peur, mes émotions négatives ont pris le dessus. C'était tellement irréel de marcher sur l'eau, de réaliser une chose exceptionnelle que j'ai eu l'impression de pouvoir me passer de toi. Pardonne-moi mon manque de foi. Merci Seigneur d'entendre mon cri de détresse. Merci Seigneur de me tendre la main pour me secourir. Merci Seigneur de m'accueillir malgré mon manque de foi. Jésus et Pierre rejoignent les autres disciples dans la barque et le vent cessa. Retour au calme en pleine nuit. Chacun reconnaît une fois de plus que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Prise de conscience collective, confirmation de ce qui était déjà dit par une voix qui se fit entendre le jour du baptême de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Reconnaître la divinité de Jésus nourrit notre foi. Reconnaître la divinité de Jésus apaise nos peurs. Se retrouver avec les frères et sœurs autour de Jésus donne du sens à notre vie. La présence de Jésus apaise les tensions. Le voyage peut continuer. Les peurs sont maîtrisées. Pour conclure, Jésus nous a rejoints dans notre humanité selon le projet de Dieu pour sa création. Les évangiles nous font connaître qui Jésus est. Il est réellement le Fils de Dieu. Il a vaincu le mal, il domine la mort en marchant sur les eaux, en ressuscitant le jour de Pâques. Il veut le bien pour chaque être humain. Il nous ouvre un chemin vers Dieu le Père, malgré nos faiblesses, notre manque de foi. Il veut nous sauver, mais il faut nous intéresser à son œuvre. Jésus s'adresse à la foule. Il est ému devant les interrogations et les colères de la société. Jésus travaille à l'annonce du royaume de Dieu. C'est un projet qui concerne toute l'humanité. Jésus s'adresse également à chaque individu pour le secourir dans sa détresse, collectivement et individuellement. Prenons notre part dans son projet. Amen.